Chapitre 14. Dans les bois. Mon père est sorti de la roulotte vêtu de son vieux pull bleu marine et coiffé de sa casquette marron, dont la visière était rabattue sur ses yeux. « Qu'est-ce que tu as là-dessous, papa ?» je lui ai demandé en voyant le renflement à sa ceinture. Il a soulevé son pull et m'a montré deux sacs de coton blanc, très grands mais très fins. Ils étaient soigneusement attachés autour de son ventre. « Pour porter la marchandise, » m'a-t-il dit d'un air grave. « Ah ! Va mettre ton pull, il est marron, non ?»« Oui, » j'ai répondu. « Ça fera l'affaire, mais enlève ces baskets blanches et mets plutôt tes chaussures noires. » Je suis allé dans la roulotte, j'ai changé de chaussures et j'ai mis mon pull. Quand je suis ressorti, mon père était debout à côté des pompes à essence et regardait avec inquiétude de ses yeux plissés le soleil qui n'était plus qu'à une largeur de main au-dessus de la ligne des arbres, au sommet de la colline.
« Je suis prêt, papa !»
« Très bien. On y va. »«
Tu as les raisins secs ?» j'ai demandé.
« Là-dedans » a-t-il dit en tapotant la poche de son pantalon, qui semblait pleine. « Je les ai tous mis dans un sachet. » C'était une soirée calme et ensoleillée, avec quelques petits lambeaux de nuages d'un blanc brillant suspendus, immobiles, dans le ciel. La vallée était fraîche et tranquille lorsque nous nous sommes tous deux mis en marche en direction de Wendover, le long de la route qui s'enfonçait entre les collines. Le morceau de fer sous le pied de mon père faisait un bruit de marteau enfonçant un clou chaque fois qu'il avançait d'un pas.
« Et voilà, Danny, nous sommes partis maintenant », a-t-il dit. « Bon sang, j'aurais bien aimé que mon vieux papa nous accompagne cette fois-ci. Il aurait donné la moitié de ses dents pour être avec nous en ce moment.
« Maman aussi », j'ai dit.
« Ah oui », a-t-il soupiré. « Ta mère aurait adoré nous accompagner. » Puis il a ajouté, « C'était une très bonne marcheuse, Danny. Et elle rapportait toujours quelque chose pour égayer la roulotte. »
En été, des fleurs ou des herbes sauvages. Quand l'herbe portait des graines, elle en faisait des bouquets magnifiques dans une cruche remplie d'eau, en les mêlant à des épis de blé ou d'orge. À l'automne, elle ramassait des branches qui avaient encore des feuilles et en hiver, des baies ou des clématites. Nous avons poursuivi notre chemin, puis il a demandé « Ça va, Danny ? Tu te sens bien ?»«
À merveille !» j'ai répondu.
Et j'étais sincère. Même si les serpents continuaient de gigoter dans mon estomac, je n'aurais pas changé ma place avec le roi d'Arabie.
« Tu crois qu'ils ont creusé d'autres fosses pour qu'on tombe dedans ?» j'ai demandé.
« Ne t'inquiète pas pour les fosses, Danny. Cette fois, je ferai bien attention. Quand nous serons arrivés dans les bois, nous avancerons très prudemment et très lentement.
Il fera noir quand nous y serons ?
Pas trop. Il y aura même pas mal de lumière, en fait.
Alors comment on fera pour que les gardes-chasse ne nous voient pas ?
Ah, ce sera ça le plus amusant.
Tout est là. On jouera à cache-cache. C'est le plus grand jeu de cache-cache du monde.
Tu veux dire, parce qu'ils ont des fusils ?
Ça met un peu de piquant, oui. Nous n'avons plus beaucoup parlé après ça. Mais à mesure que nous approchions des bois, je voyais mon père devenir de plus en plus agité à cause de l'excitation qui montait en lui. Il s'est mis à fredonner une horrible vieille chanson et au lieu de chanter les paroles, il les a remplacées par des « Troum talalitat il a l'air » qu'il répétait sans cesse. Puis il est passé à une autre vieille rengaine en continuant ses « La 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 pom pom la la l'air ». En même temps qu'il chantait, il essayait de marquer le rythme avec son pied en fer. Quand il s'est lassé de chanter, il m'a dit « Je vais te raconter quelque chose d'intéressant sur les faisans, Danny. D'après la loi, ce sont des oiseaux sauvages, et donc, ils ne t'appartiennent que s'ils sont sur tes terres. Tu savais ça ?»«
Non, papa. »
« Alors, si un des faisans de Mr. Hazel s'envolait et venait se percher quelque part dans la station-service, c'est à nous qu'il appartiendrait. Personne d'autre n'aurait le droit d'y toucher.
Tu veux dire ?» Même si Mr. Hazel l'a acheté sous forme de poussin, même s'il l'a élevé lui-même dans ses bois ?
Absolument, a répondu mon père. À compter du moment où le faisan s'envole de ses terres, il est perdu pour lui, sauf bien sûr s'il retourne dans les bois.
C'est la même chose avec les poissons.
Une fois qu'une truite ou un saumon a quitté la partie de la rivière qui t'appartient pour aller chez quelqu'un d'autre, tu ne peux pas dire « Hé, ce poisson m'appartient, rendez-le-moi » Tu comprends ?
Oui, bien sûr.
Je ne savais pas que c'était comme ça avec les faisans.
C'est comme ça avec tout le gibier, a dit mon père.
Les lièvres, les cerfs, les perdrix, les grouses, tout ce que tu voudras.
Nous avions marché d'un pas régulier pendant environ 1 h 15, et nous étions arrivés devant l'endroit où il y avait une ouverture dans la haie, et d'où partait le chemin de terre qui montait vers le bois aux faisans. Nous avons traversé la route et franchi l'ouverture. Puis nous avons suivi le chemin de terre, et, quand nous avons atteint le sommet de la colline, nous pouvions voir le bois qui s'étendait devant nous, immense et obscur, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, projetant de petites étincelles dorées à travers les feuillages.
« Il ne faudra plus parler quand nous serons entrés dans le bois, Danny, » a dit mon père.
« Reste tout près de moi et essaie de ne pas faire craquer les branches. »
5 minutes plus tard, nous y étions. Le bois bordait le chemin de terre sur la droite et seule une haie nous en séparait.
« Viens, » a dit mon père, « on y va !»
Il s'est glissé à 4 pattes à travers la haie et je l'ai suivi. Il faisait frais et sombre dans les bois. La lumière du soleil n'y pénétrait pas. Mon père m'a pris par la main et, ensemble, nous avons avancé parmi les arbres. Je lui étais très reconnaissant de me tenir la main. J'avais eu envie de prendre la sienne au moment où nous avions pénétré dans le bois, mais je ne savais pas s'il aurait aimé cela.
Mon père était très tendu.
Il levait haut les pieds et les reposait très doucement sur les feuilles marrons. Sa tête ne cessait de bouger, ses yeux allant lentement d'un côté à l'autre, guettant le danger. J'ai essayé de faire la même chose, mais bientôt, j'ai eu l'impression de voir un garde-chasse derrière chaque arbre et j'ai laissé tomber. Nous avons continué comme ça pendant environ 4 ou 5 minutes, nous enfonçant plus profondément dans les bois. Puis, un grand morceau de ciel est apparu devant nous, comme une ouverture dans le toit de la forêt, et j'ai compris que c'était la clairière. Mon père m'avait dit que cette clairière était l'endroit où on introduisait les jeunes oiseaux dans les bois, au début du mois de juillet. C'était là qu'on les nourrissait, qu'on leur donnait à boire. Là, ils étaient protégés par les gardes-chasse, et beaucoup d'entre eux y restaient par la force de l'habitude, jusqu'à ce que la chasse commence.
« Il y a toujours plein de faisans dans la clairière, » avait dit mon père.
« Et les gardes-chasse, papa ?
Ils sont là. Mais il y a d'épais buissons tout autour. Ça aide. »
La clairière se trouvait à 100 mètres devant nous. Nous nous sommes arrêtés derrière un gros arbre pendant que le regard de mon père inspectait lentement les environs. Il vérifiait chaque petite ombre, chaque partie du bois qui se trouvait dans son champ de vision.
« À partir de là, il va falloir y aller à 4 pattes, » a-t-il murmuré en lâchant ma main. « Reste toujours bien derrière moi, Danny, et fais exactement ce que je fais. Si tu vois que je me mets à plat ventre, fais comme moi, d'accord ?»«
D'accord, papa, »
j'ai répondu en chuchotant moi aussi.
« Alors ça y est, on y va !»
Mon père s'est laissé tomber sur les genoux et les mains et a commencé à avancer à 4 pattes. Je l'ai suivi. Il se déplaçait avec une rapidité étonnante et j'avais beaucoup de mal à le suivre. Régulièrement, toutes les 3 ou 4 secondes, il jetait un œil vers moi pour voir si tout allait bien et à chaque fois, je lui souriais avec un hochement de tête approbateur. Nous avons continué comme ça de plus en plus loin et enfin, nous nous sommes abrités derrière des buissons en bordure de la clairière. Mon père me donnait de petits coups de coude et me montrait les faisans à travers les feuillages. L'endroit en regorgeait. Il devait y avoir au moins 200 gros oiseaux qui se promenaient parmi les souches d'arbres.
« Tu vois ce que je voulais dire ?»
a murmuré mon père.
C'était une vision fantastique, un rêve de braconnier devenu réalité. Et ils étaient si près. Certains d'entre eux n'étaient pas à plus de 10 pas de l'endroit où nous nous étions agenouillés. Les poules étaient dodues et d'une teinte marron clair. Elles étaient si grosses que leurs plumes de devant traînaient presque par terre quand elles marchaient. Les coqs étaient minces et élégants, avec de longues queues et des taches rouges brillantes autour des yeux, comme des lunettes écarlates. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il paraissait en extase. La bouche entrouverte, les yeux étincelants, il contemplait les faisans.
Il y a un garde-chasse, m'a-t-il dit à voix basse. Je me suis immobilisé. Au début, je n'ai même pas osé regarder.
Là-bas,
a murmuré mon père. Je me suis dit que je ne devais surtout pas bouger, pas même la tête.
Regarde bien, de l'autre côté, tout près de ce gros arbre.
Lentement, j'ai tourné les yeux dans la direction qu'il m'indiquait,
et je l'ai vu. Papa, j'ai murmuré, ne bouge plus, Danny.
Reste bien tranquille.
Oui, mais papa, tout va bien. Il ne peut pas nous voir.
Nous nous sommes accroupis en regardant le garde. C'était un homme plutôt petit avec une casquette sur la tête et un fusil à double canon sous le bras. Il ne bougeait pas, droit comme un poteau.
On ferait bien de s'en aller, non ? J'ai murmuré.
Le visage du garde-chasse était caché par la visière de sa casquette. Mais j'avais l'impression qu'il nous regardait.
« On s'en va, papa !»«
Chut !» a répondu mon père. Lentement, sans jamais quitter le garde-chasse des yeux, il a glissé la main dans sa poche et en a sorti un unique raisin sec. Il l'a mis dans la paume de sa main droite, puis, très vite, d'un petit geste du poignet, il l'a jeté haut dans les airs. J'ai vu le raisin sec s'envoler par-dessus les buissons et atterrir à 2 mètres de 2 poules faisanes qui se trouvaient à côté d'une vieille souche. Les 2 oiseaux ont brusquement tourné la tête en entendant tomber le raisin sec. Puis l'un d'eux s'est avancé, a picoré le sol, et ce fut tout. J'ai regardé le garde-chasse. Il n'avait pas bougé. Je sentais un filet de sueur froide couler sur le côté de mon front, puis sur ma joue. Je n'osais pas lever la main pour l'essuyer. Mon père a jeté un 2e raisin sec dans la clairière, puis un 3e, un 4e, un 5e. Je trouvais qu'il fallait du courage pour faire ça. Un très grand courage. Si j'avais été seul, je ne serais pas resté 1 seconde de plus. Mais mon père était dans une sorte de transe. Pour lui, c'était ça qui comptait, le moment du danger, le plus grand des frissons. Il continuait de jeter des raisins secs, en silence, un par un. Un petit geste du poignet et le raisin sec s'envolait par-dessus les buissons pour atterrir parmi les faisans. Tout à coup, j'ai vu le garde-chasse tourner la tête pour observer le bois derrière lui. Mon père aussi l'a vu. Vif, comme l'éclair, il a sorti le sachet de raisin sec de sa poche et l'a vidé entièrement dans la paume de sa main droite.
« Papa !» j'ai murmuré. « Ne fais pas ça !»
Mais d'un grand geste du bras, il a jeté toute la poignée de raisins secs en direction de la clairière. Ils sont tombés avec un léger crépitement, comme des gouttes de pluie sur des feuilles mortes, et tous les faisans qui se trouvaient là ont dû les entendre. Il y a eu un grand bruissement d'ailes, et les oiseaux se sont précipités sur le trésor. Le garde-chasse a tourné à nouveau la tête d'un mouvement brusque, comme s'il avait eu un ressort dans le cou. Les oiseaux picoraient les raisins comme des fous. Le garde a fait 2 pas en avant, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait venir de notre côté. Mais il s'est arrêté. Son visage s'est levé et son regard s'est promené lentement tout autour de la clairière.
« À plat ventre !»
a murmuré mon père.
« Reste là. Ne bouge pas. »
Je me suis plaqué contre le sol et j'ai appuyé le côté de ma tête contre les feuilles mortes. La terre avait une étrange odeur âcre, comme de la bière. Du coin de l'œil, j'ai vu mon père relever un tout petit peu la tête pour observer le garde-chasse. Il avait les yeux fixés sur lui.
« Merveilleux, non ? »
m'a-t-il murmuré. Je n'ai pas osé lui répondre. Nous sommes restés couchés là, pendant ce qui m'a semblé 1 siècle. Enfin, j'ai entendu mon père chuchoter.
« Fin d'alerte, Danny. » Mais fais très attention, il est toujours là et reste toujours baissé.
Il est retourné en arrière, se déplaçant rapidement à 4 pattes, et je l'ai suivi. Je n'ai cessé de penser au garde-chasse qui était quelque part derrière nous. J'étais très conscient de sa présence. J'étais aussi très conscient que mon derrière en l'air devait être bien visible. Je comprenais maintenant pourquoi on se plaignait souvent d'avoir des fesses de braconnier quand on pratiquait cette activité.
nous avons parcouru environ une centaine de mètres à quatre pattes.
« Et maintenant, cours !» m'a dit mon père.
Nous nous sommes relevés, nous avons couru, et quelques minutes plus tard, nous franchissions la haie dans l'autre sens, retrouvant un terrain dégagé et la merveilleuse sécurité du chemin de terre.
« Tout s'est passé, on ne peut mieux !» a dit mon père, le souffle court. « C'était absolument formidable, non ?»
Il avait le visage écarlate et triomphant.
« Tu crois que le garde-chasse nous a vus ?» j'ai demandé.
« Jamais de la vie !» Dans quelques minutes, le soleil sera couché. Les oiseaux iront se percher dans les arbres pour la nuit et le garde-chasse retournera chez lui pour dîner. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à revenir dans le bois et à nous servir. On les ramassera par terre comme des cailloux. Il s'est assis sur le talus herbeux, au pied de la haie. Je me suis assis à côté. Il a passé un bras autour de mes épaules et m'a serré contre lui.
« Tu t'es très bien débrouillé, Danny, » m'a-t-il dit.
« Je suis vraiment fier de toi. »